Vous êtes sur RTL. Pascal Praud sur RTL.
Ski à l'étranger, Emmanuel Macron en fait toute une montagne. Il a annoncé hier que le gouvernement envisageait de prendre des mesures restrictives et dissuasives pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger. Je ne vois pas d'abord comment ça va être possible techniquement, mais sur le fond, même si on l'a dit, c'est à la fois dérisoire, bien sûr, ça concerne peut-être 5 000, 10 000 Français qui skient à l'étranger. Qu'en pensez-vous, Xavier, qui est chef d'entreprise à Chartres ?
Eh bien, je pense qu'on reste dans la droite lignée de ce que nous démontre M. Macron depuis qu'il a été assis dans le siège de la présidence de la République. C'est quelqu'un qui fait preuve d'autoritarisme parce qu'il n'a pas d'autorité naturelle, tout simplement, et qu'il n'est pas compétent à ce poste, et qu'il n'a pas su s'entourer de gens compétents non plus, aux différents postes. Au gouvernement, dans les hautes autorités de la fonction publique, lui-même étant un haut fonctionnaire, on voit...
Il n'est pas qu'un haut fonctionnaire, lui, là, de ce point de vue-là, il a un parcours peu atypique.
Il a fait du pantouflage dans le privé et il refera du pantouflage dans le privé.
C'est pas tout à fait du pantouflage. Il a fait une carrière de banquier d'affaires dans une entreprise très célèbre.
Il a géré des portefeuilles clients qu'on lui a amenés. Il a pas forcé son talent, le monsieur.
Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple, qu'il manque d'autorité ?
Les énarques ne sont pas des gens talentueux, ce sont des gens...
Bah, ça dépend qui.
Dans certains secteurs, ça dépend qui, mais Xavier... et qui manquent de bon sens.
Mais Xavier...
Et on le voit tout à fait.
Mais c'est comme si vous disiez les journalistes, les policiers, les footballeurs. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas généraliser.
Ah bah, on peut quand même... tirer quelques conclusions sur le fonctionnement, le raisonnement des gens quand même. On voit où on en est notre pays aujourd'hui. La crise Covid nous a montré quand même ce qu'ont fait les hauts fonctionnaires, ou plutôt ce qu'ils ont mal fait ou ce qu'ils n'ont pas fait.
Bon, ce ne sont que des hauts fonctionnaires sur certaines choses,
mais pour nous. Et c'est des décisions complètement idiotes. Là, on est en train de nous parler encore d'une pseudo-polémique d'empêcher les Français de sortir des frontières pour aller skier, alors qu'on sait de toute façon pertinemment que le risque de mourir du virus, il est pour les personnes âgées et les gens en mauvaise santé.
Bon, pour revenir sur l'autorité, qu'est-ce qui vous fait dire, pourquoi dites-vous Emmanuel Macron n'a pas d'autorité naturelle, selon vous ? Quels sont les exemples qui étayent ça ?
Il n'a pas eu d'expérience en politique, même si je dis, moi, que c'est pas bien de faire de la politique de façon professionnelle, comme ça se fait depuis longtemps en France, mais il n'a pas... Vous le comparez à De Gaulle, il a pas de prestance naturelle, il est toujours en train de jouer, on dirait quelqu'un qui est au théâtre et qui répète sa pièce de théâtre. Il a pas la prestance qu'on attend d'un chef de l'État et il a pas les compétences. De toute façon, il est inexpérimenté. C'est un étudiant qui est en train d'apprendre et qui est en train de faire des bêtises depuis qu'il est là. Il n'a pas d'autorité naturelle. C'est pour ça que depuis le départ, il tape du poing sur la table pour montrer que c'est lui le chef, mais les gens ne le respectent pas. Les gens ne le respectent pas. Vous l'avez vu avec les gilets jaunes. Il déteste que l'on contredise ce qu'il dit. Il pense toujours avoir raison. Donc, pour donner tort aux autres, il utilise notamment la force. Voilà.
Bon, écoutez, merci de cette analyse. Il est rhabillé pour l'hiver, si j'ose dire, Emmanuel Macron, avec vous.
Il en a besoin.
On va marquer une première. Il en a besoin parce qu'il fait froid.
Ah oui,
comme nous le disait Peggy Broche, merci à vous pour ce premier témoignage. Vous savez que désormais, chaque jour jusqu'au 24, on aura une chanson de Noël. Cette chanson de Noël, elle sera à 13h30 avec un cadeau. Et le cadeau, c'est Monsieur Cadeau. C'est vous, Monsieur Cadeau. C'est quoi, Monsieur Cadeau ?
Bonjour à tous.
Ah bonjour, Jacques Caran.
Je garde la surprise pour 13h30.
Non, mais c'est quoi, Monsieur Cadeau ? Je ne dis pas c'est quoi le cadeau. C'est quoi être Monsieur Cadeau ? C'est vous qui donnerez toujours le cadeau.
C'est exactement. Je choisis un cadeau pour nos auditeurs chaque jour. Notre calendrier de l'Avent.
Et vous choisissez également la chanson.
Bien sûr, je choisis tout.
Et à 13h30, tous les jours, on aura un témoignage, mon Noël, quoi. Un souvenir de Noël avec un auditeur.
Exactement. Tout ça préparé par Laurent Tessier. Mais de main de maître.
C'est formidable, la magie de Noël.
Vous avez vraiment une équipe formidable.
Mais la magie de Noël, c'est Philippe Rey qui m'a suggéré cette association de mots, la magie de Noël, parce que lui-même est très sensible à cela. La pub, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Emmanuel Macron, donc, qui a décidé que les Français seraient pistés s'ils allaient skier. Pistés, non pas sur des pistes noires, mais pistés aux frontières. Nous sommes avec Raphaël, bonjour, qui est professeur de droit dans le Puy-de-Dôme.
Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe.
Et merci d'être avec nous.
Moi j'ai une analyse, ça fait longtemps que j'explique à mes étudiants et que j'ai écrit que nous vivons une dictature sanitaire. Et cette dictature sanitaire, elle a commencé en mars dernier. C'était un peu la chronique d'une dictature sanitaire annoncée, si j'ose dire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sur les masques, on s'est raté. Sur l'anticipation du vaccin, du Covid loupé, masque raté, donc quand c'est comme ça, on serre la vis. On s'est raté sur le déconfinement, on serre la vis. Reconfinement, on voit bien que ça patauge un peu, on resserre la vis. Hein. Et comme on va se rater sur le vaccin, ça c'est une chronique d'un vaccin raté, ça va encore serrer la vis. Mais jusqu'où va-t-on aller ? C'est ça que je veux dire. C'est ça,
non, mais j'entends bien, mais Raphaël, moi je suis le premier parfois à dire, à utiliser le mot dictature comme ça pour m'amuser un peu, pourquoi pas, avec des amis. Mais vous êtes professeur de droit, vous savez mieux que quiconque ce qu'est une dictature et un régime autoritaire. On ne peut pas dire que nous sommes en France dans une dictature sanitaire. Convenez que c'est métaphorique peut-être dans votre bouche, c'est une manière de frapper l'opinion, mais au fond, vous ne le pensez pas vraiment.
Ah si, 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 mais je suis désolé que nous soyons en une dictature sanitaire, alors peut-être avec un petit dé, si vous voulez, mais on nous oblige à des masques, mais qu'est-ce que c'est que ce pays où on a, dans la déclaration 89,
il y a toute une série de droits et libertés. Les masques, tout le monde fait la même chose, les masques, c'est une mesure barrière.
Et les attestations, on est un des seuls pays d'Europe à en faire, un des seuls. Mais... J'ai fait une recherche avec des étudiants, doit y avoir sur les, je parle l'Europe des 15, l'Europe des 12, on va dire, hein. Sur les 12, il y a 9 pays qui le font pas. On est 3 à le faire.
Mais
qu'est-ce
Raphaël,
que c'est que on dirait l'occupation.
Raphaël, si...
Désolé.
Raphaël, si vous m'écoutez tous les jours, vous connaissez un peu ma position là-dessus. Moi, je suis un fan absolu des libertés. Bon, mais convenez que dans nos sociétés, il y a déjà beaucoup de contraintes. L'exemple de la voiture, vous n'avez pas le droit de rouler à 180 à l'heure sur la route. Vous pourriez dire pareil, c'est une dictature routière.
Ah, je suis parfois de ceux qui râlent, mais bon, on est obligé de freiner, obligé de freiner. Mais là, au niveau
sanitaire...
Mais c'est
pas qu'on est obligé, ça s'appelle vivre ensemble, vous êtes marrant.
Oui, mais
Le masque, par exemple, autant...
Par exemple, je vous annonce, je ne le mets pas.
Ben vous avez tort.
Et j'attends le procès verbal, et je peux vous garantir...
Mais pourquoi vous ne le mettez pas, au fond ?
Parce que je suis quelqu'un, j'ai envie de respirer librement.
Oui, mais vous...
Je suis rousseauiste.
Il n'y a pas que vous. Vous êtes marrant. Moi, vous croyez que ça m'amuse de porter un masque ?
Ah, ben moi, quand je vais voir des anciens, j'en ai peu, plus. Mais autrement, dans certains magasins, peut-être. Mais autrement, je ne mets pas de masque. Je préfère tout faire par Internet.
Alors déjà, vous venez de dire que vous le mettez quand vous allez voir des anciens, c'est une bonne chose.
Parce qu'on me dit de le faire, parce que c'est une sorte de respect.
Mais dans le reste du temps,
je n'en mets pas.
Et
je n'en mets pas. Et je n'en mets pas le reste du temps.
Mais où est-ce que vous n'en mettez pas ?
Quand je rentre dans un hall de gare, j'en ai pas. On me dit pas. Par exemple, je vais aller chercher ma femme, je n'ai pas de masque. On va me dire, vous pouvez pas rester. Ben, je vais ressortir, j'ai ma femme, je t'attends dehors.
Ben, pourquoi pas ? Mais ça, c'est votre. Si vous voulez l'attendre dehors, votre femme, je vois pas où est le problème,
mais je ne comprends pas.
Mais est-ce que vous comprenez que le masque a permis, sans doute les gestes barrières, ont-ils permis de diminuer l'épidémie ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Non. Vous avez des chiffres ?
Bah oui, j'ai les chiffres. Pour le coup, entre le début d'un confinement et le début d'un couvre-feu...
Combien ?
Bah on était à 100 000 contaminations jour il y a un mois, on est à 5 000. Vous expliquez ça comment ?
Parce que, plus par le reconfinement où les gens restent chez eux, ça par contre c'est beaucoup plus plausible et beaucoup plus marquant que les masques.
Vous êtes professeur de droit, vous dites ça à vos étudiants ?
Ah mais oui, mais je dis à mes étudiants qu'il faut parfois se rebeller.
De temps en temps, il faut se rebeller, mais en l'espèce, sur le masque, il peut avoir consensus quand même.
Non, moi je suis... Non, ni sur le masque, ni même sur les tests.
Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas consensus.
Mais même le masque, je suis désolé, il y a des gens qui ne le portent pas. Moi je suis parti de ceux qui le portent à minima.
Bon.
À minima.
Écoutez,
et le problème, c'est que, par exemple, je mène ma marque, mais par exemple, je disais tout à l'heure à votre collègue, on a deux juges qui sont censés protéger les libertés, il n'y en a qu'un qui les protège, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, par ses décisions, nous protège, alors que le Conseil constitutionnel nous expose. C'est pas dans le domaine sanitaire, c'est dans le domaine sécuritaire. Mais là, pareil.
Écoutez, autant je trouve que la mesure restrictive d'Emmanuel Macron est dissuasive d'empêcher les gens de skier. D'abord, je trouve ça ridicule, grotesque,
ça concerne personne. Français, on s'en fout.
Voilà, on s'en fiche et je vous rejoins. Autant il y a des choses, effectivement, je pense qu'il faudrait, il va falloir commencer à rouvrir sans doute avant le 20 janvier. Parce que c'est ça la vérité pour les restaurateurs et les cafetiers
morts,
et même
les
stations de ski.
Autant vous je savez
peux,
mieux que moi.
Voilà, je peux entendre ça, mais il y a des choses. Pardonnez-moi. Et moi, je suis pas le garçon le plus discipliné du monde, hein, croyez-moi. Le masque, il m'a fallu un petit temps, j'ai envie de dire, pour accepter l'idée de le porter toujours et tout le temps. Parce qu'au fond, je suis comme tout le monde et peut-être plus indiscipliné que tout le monde. Mais je m'y suis fait. Je comprends.
Je
comprends la logique. Et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'entreprise, t'es pas tout seul.
Moi, j'y arrive pas dans un amphi.
Vous êtes obligé dans un amphi.
Non, dans un amphi, ils sont distanciés, ils sont à 2 mètres, 2 mètres ou 3 mètres.
De toute façon, il n'y a plus d'amphi.
Je mets pas mon masque. Voilà, il n'y a plus d'amphi, il n'y a plus rien.
Dans l'amphi, vous ne le mettiez pas?
Ah non, j'avais une distance, moi, qui était à plus de 2 mètres, je ne mettais pas mon masque.
Et les élèves ne vous disaient rien?
Jamais rien dit. Jamais rien dit. Et moi, je leur disais, vivez, protégez vos aînés.
Mais je suis, j'entends ce que vous dites, puisque quand Auguste Comte Sponville, André Comte Sponville, c'est Auguste Comte et André Comte Sponville, est venu chez Alba Ventura, d'ailleurs, je crois que ce qu'il avait dit ce matin-là, c'est une des vidéos qui a le plus tourné sur le site RTL. Donc, je suis d'accord sur ça. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des choses, faut accepter la contrainte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise,
Raphaël?
Un peu. Et je dis ça franchement, il y a des gens, ceux qui me connaissent, ils doivent rire en entendant cela, parce que accepter la contrainte, c'est pas facile pour moi.
Je vous écoute sur CNews, voilà, là c'est du discours convenu, là on va dire.
Ah non, dites pas que j'ai deux discours.
Un peu.
Ah non, sur le masque, j'ai toujours le même.
Ah bon, mais c'est la liberté. Rousseau nous enseigne la liberté.
Mais oui, mais
ça
veut rien dire. J'ai pris l'exemple de 180 à l'heure. C'est la liberté de rouler à 180 à l'heure. Et puis vous pourriez dire aussi, c'est la liberté de violer les filles. C'est ma liberté.
Mais
si, vous pourriez dire ça, pardonnez-moi, ça veut rien dire, la liberté. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Je suis désolé de vous dire.
Non, mais le masque est une entrave à nos libertés. Tout comme les attestations qu'on avait comme sous l'occupation, ce sont les mêmes.
Bon, ben Raphaël, on a été un peu long, mais quand on n'est pas d'accord, je garde les auditeurs, généralement.
C'était très bien. Oui, très
bien. Vous êtes le premier qui me dit ça.
Non, ben moi, je vous aime beaucoup. Alors, continuez comme ça. Foutez-vous des autres.
Non, je me fous pas des autres, Raphaël.
Et puis, une petite pensée. Si j'aurais juste fini une seconde.
Oui.
Une petite pensée pour Christophe Dominici.
Ah oui, vous avez raison.
Il y
avait une messe ce matin.
Ouais, il y a des choses qui commencent à pleuvoir sur le net. On se mêle de sa vie, on se mêle de plein de choses.
Non, mais laissons ça.
C'est dégueulasse.
Laissons ça. Mais
pensons
en revanche.
Pensons à lui et à sa famille.
Voilà, l'ami Christian Olivier était tout à l'heure présent.
Super.
Il y a une cérémonie en son hommage à l'église de Boulogne et vraiment j'ai parlé avec Christian qui revenait et qui était évidemment très très peiné parce que tout le monde aimait beaucoup Christophe Dominici, donc merci pour lui, pour ces quelques mots. Merci, il est 13h17, à tout de suite. Qu'est-ce que cette histoire de pull de Noël que m'a dit Christelle Rebière,
Grégory? J'ai l'impression qu'elle vous a lancé le défi de porter un pull de Noël. Vous savez quelle est la journée du pull de Noël?
Non, c'est quand?
C'est le 20 décembre.
Ah bon?
Pourquoi vous n'en porteriez pas un le 21 décembre?
Mais je suis votre obligé, comme on disait jadis.
On va vous trouver un pull de Noël alors.
Écoutez, sans chemise, sans pantalon.
Ah non. Avec un pull de Noël.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier est là comme tous les jours.
Bonjour
depuis
Pascal.
Le 24 août.
Ah oui, là, vous avez la mémoire des dates.
C'est vrai, oui.
Et nous quitterons le 24 décembre.
Nous nous quitterons momentanément.
Oui, momentanément, voilà.
Car nous serons là le 24 décembre.
Exactement. Allez, vous réagissez à l'instant sur nos réseaux sociaux au propos de Raphaël, hein, ce professeur de droit dans le département du Puy-de-Dôme. Il était avec vous, Pascal, il y a quelques instants au 32-10.
Le masque, par exemple. Autant.
Moi, je ne le mets pas. Par exemple, je vous annonce, je ne le mets pas.
Ben, vous avez tort.
Et j'attends le procès verbal. J'ai envie de respirer librement. Mais je dis à mes étudiants qu'il faut parfois se rebeller.
Et ce comportement est honteux, écrit Patrice sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Comment peut-il tenir ce type de discours? On n'est pas prêt de s'en sortir avec des gens comme ça, nous dit encore Jean. Raphaël est professeur, réagit Véronique. Bravo. La transmission des savoirs, transmission des gestes dangereux, oui. Et sur notre question, Emmanuel Macron est-il autoritaire? Entre le ski, la loi de sécurité globale, écrit Jacques. Oui, le chef de l'État est sur cette ligne. Ça ne date pas d'hier, lance Gabriel. il est autoritaire depuis le début de son mandat. On va finir par être séquestré, nous dit Mému. Atteinte aux libertés individuelles pour Anne et pour Marie. Si des vacanciers ne peuvent pas skier, aller par exemple en Autriche, eh bien ils iront s'agglutiner dans les magasins.
Bon, ça fait réagir en tout cas. Il n'y a pas que ça hein, d'ailleurs comme sujet. Je trouve qu'il y a un excellent sujet aujourd'hui. C'est cette députée de La République En Marche, cette proposition, l'ouverture de l'adoption plénière aux couples paxés ou concubins, qui doit permettre de mettre fin aux discriminations relatives aux règles d'union ou à l'homoparentalité, selon une députée de La République En Marche. C'est ouvrir l'adoption aux couples non mariés. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant et je pense que ça pourrait faire réagir nos auditeurs. Nous sommes avec qui ? Bah tiens, avec Patrick, parce qu'on va parler de la Suisse. C'est vrai que la Suisse, c'est assez chic, ou l'Autriche, c'est assez chic d'aller skier dans ces contrées-là, et notamment en Suisse, à Saint-Moritz, à Verbier, à Zermatt ou à Gstaad. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour. Ben oui, effectivement, c'est pas du tourisme de masse qu'on a en Suisse. Hein.
Vous êtes à Zurich ?
Je suis à Zurich, oui.
Vous êtes suisse ?
Près de Zurich, je suis pas suisse, je suis français, je suis expatrié, mais bon, je suis marié à une Suissesse, donc là maintenant, je suis quand même bien intégré. Et non, mais ce que je voudrais dire, oui, c'est ça, c'est moi le de parler d'absence de liberté, je sais pas, c'est un souci d'efficacité, moi surtout, qui me pose problème, parce que oui, fermer les frontières, donc c'est pas un tourisme de masse. C'est pas, puis si on parle d'équité par exemple, dans ce cas-là, faudrait peut-être aussi demander aux Français de pas acheter des voitures allemandes, parce qu'ils en achètent pas mal, je crois. Et puis bon, en plus, ce qui me gêne aussi l'efficacité, c'est que je pense qu'il y a aucun risque. Je sais pas s'ils ont déjà fait du ski, si Jean Castex, fait du ski, mais dans un téléphérique, dans une cabine, il y a quasiment aucun risque, il y a beaucoup moins de risques que dans une rame de métro, par exemple. Donc ça me paraît un petit peu fou d'interdire aux gens comme ça d'aller faire du ski. Et il faudrait...
En plus, je vois pas comment c'est possible, pour tout vous dire, c'est-à-dire que tu vas pas contrôler les voitures. Alors, tu vas en Suisse, mais tu vas skier ou tu vas acheter des chocolats, donc quelle est la raison pour laquelle tu vas en Suisse? C'est absolument impossible. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, un Allemand qui arrive en France, il n'est ni contrôlé, ni testé, ni mis en quarantaine. Mais un Français qui part, par exemple, en Suisse et qui revient... Ce Français-là serait mis en quarantaine, il serait testé, il serait contrôlé. Mais tout ça n'a pas de sens.
Non, en revanche, c'est la septième compagnie, quoi, la du chef Chaudard qui dirige un petit peu. Non, je veux pas me moquer de
Non, mais on est tous d'accord de dire que c'est pas la meilleure mesure imaginée. Mais Patrick, quelle est la situation en Suisse, par exemple à Zurich? Les restaurants sont ouverts?
Oui, mais la plupart c'est ouvert. Il y a pas de, j'ai jamais vu, même la première vague, j'ai jamais vu d'attestation de choses comme ça. Tout a toujours été ouvert. Les gens circulent. Bon, alors il y a bien sûr des on a toujours eu des masques, évidemment. Les hôpitaux sont pas débordés. Alors il y a des différences.
Il n'y a pas eu de confinement en Suisse depuis le départ?
C'est un semi-confinement, il n'y a pas, évidemment, comme il y a pas mal de cadres d'assurance, de banque, donc il y a le télétravail, c'est toujours possible, mais il n'y a aucune panique, surtout en Suisse allemande. Alors il y a des différences avec la Suisse italienne, la Suisse romande, qui est française.
Il y a eu 4552 décès en Suisse, pour 330 000 cas.
Alors là, c'est pareil, on parle de Suisse, mais il faut voir que c'est, il y a la zone italienne et française.
Là,
je parle
de la Suisse française, hein, je pense.
Eh ben voilà, donc là, il y a des choses, c'est comme en France, il y avait des situations différentes, et la Suisse, c'est pareil. Et la Suisse allemande, évidemment, ils n'ont jamais paniqué. Alors qu'on était, pendant la première vague, frontière avec Mulhouse et toutes ces régions qui étaient en zone rouge, ben, il n'y a jamais eu de problème.
Parce donc que les restaurants sont ouverts, tout est ouvert en fait. Les facs, par exemple, sont ouverts en Suisse?
Oui, alors
en fait,
c'est où,
rien n'est fermé.
Mais rien n'est fermé.
Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas d'attestation, vous faites ce que vous voulez.
Non, ça on n'a jamais eu, bon, même.
Et il y aura évidemment les sports d'hiver.
Bon, mais c'est ça, écoutez, voilà. Non, mais il
faut qu'on aille vivre en Suisse.
Saint-Nicolas, on sait qu'il y avait Saint-Nicolas, il est toujours accompagné de Schmutzi,
oui.
qui est pour punir les enfants qui ont été méchants, c'est le Père Noël habillé en noir.
Ah et bah donc, nous, on est punis tous les jours. Hein, on a le...
Mais voilà, non, mais avec Jean Castex, c'est un peu ça pour moi. Mais ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que moi j'ai peur pour la France d'un déclassement, quoi. Quand je vois que tous les scientifiques, quand on voit Emmanuel Carpentier, la prix Nobel, qui est obligé d'aller, qui travaille à Berlin, quand on voit les AstraZeneca, Moderna, qui sont dirigés par des Français, mais qui n'ont pas ouvert leur boîte en France, tout ça fait peur, quoi.
Alors Jean Castex a annoncé ce matin d'ailleurs des contrôles aléatoires aux frontières, hein, c'était après la déclaration d'Emmanuel Macron hier, des tests, une quarantaine de 7 jours, je l'ai dit, pour les Français allant skier à l'étranger dans le but de contourner la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski françaises, l'objectif étant d'empêcher les Français d'aller se contaminer ailleurs. Non mais c'est intéressant de vous écouter parce qu'effectivement on voit bien que à l'arrivée avec dans un pays qui est frontalier, quand même.
Oui, frontalier. Ah. Puis bon,
alors, est-ce que vous êtes plus discipliné que nous ? Je n'en sais rien.
Non, mais le ridicule...
Là, les restos n'ont jamais fermé depuis le mois d'août.
Non, non. Pas... Il y a des... Bien sûr, il y a eu il y a des mesures, il y a des choses comme ça. Mais c'est pas... On n'a pas... Non, non, non. C'est... Ouais. Alors, je peux dire que je ne suis pas allé au restaurant depuis quelques mois.
Non, mais vous voyez bien si les restaurants sont ouverts
mais
ou
voilà,
pas.
Non, mais c'est ouvert. Mais comme je dis, on a jamais... j'ai jamais senti une pression comme il y avait en France.
Mais oui, mais on est tous d'accord là-dessus.
Et l'attestation, moi j'ai l'impression d'entendre parler de la zone libre, de on est en soirée, là, revenu sous le maréchal Pétain, là, je sais pas, avec des attestations, des Ausweis un peu partout. Non, c'est ridicule.
Bah, merci Patrick. Si j'ose dire, merci, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, manifestement, puisque ça fait deux fois dans l'émission que j'entends parler de Ausweis.
Pour moi, le risque, c'est vraiment de on parle d'Austerlitz en ce moment, mais c'est d'aller vers Waterloo, quoi. et c'est ça qui me paraît dangereux. Et moi, je parle encore du déclassement, mais moi, ça me fait peur quand je compare ce qui se fait en Allemagne, en Suisse, un peu partout, et quand je compare avec la France.
Ah non, mais franchement... c'est vrai qu'on a plus de morts qu'en Allemagne, alors qu'on devrait en avoir moins? Parce que notre population est plus jeune qu'allemande et elle est également en meilleure santé que les Allemands, a priori. Donc on devrait avoir moins de morts, a priori.
Oui, mais enfin, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on sait que Colmar a été aussi un foyer très très important parce qu'on n'avait pas fermé les frontières avec Wuhan. Et on sait que des séries télévisées chinoises se sont tournées là-bas. Et dont une série, enfin une émission de télévision de cuisine style Top Chef à la chinoise. Et on sait que ça a été un des premiers foyers, bon. C'est pas Mulhouse.
Merci en tout cas Patrick, la pub, et ça va être Monsieur Cadeau qui va sortir de sa régie, en l'occurrence l'ami Greg Caradoni, avec une chanson, la chanson de Noël. Hier c'était Jésus né en Provence, et aujourd'hui ce sera un autre titre. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
13h30, tous les jours, nous évoquerons un souvenir de Noël. Et chacun pourra venir nous raconter son Noël. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous avez quel âge Thierry?
48 ans.
48 ans. Et donc vous allez nous parler d'un Noël qui remonte à quelle année?
À la fin des années 70.
Donc vous étiez jeune.
Ah oui, ma plus jeune enfance, ouais, 6-7 ans.
Et quel souvenir vous avez?
Le plus beau souvenir, c'est la grande tablée chez ma tante, avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, la grand-mère, le plat de la dinde au milieu, classique, et puis les enfants, on était excités, on tournait en rond, à l'attente du Père Noël qui arrivait généralement vers le dessert.
Et vous étiez combien?
Je sais pas, je dirais une quinzaine, 15-20.
Les cadeaux, c'était quand?
C'était au dessert. Alors mon oncle partait chercher le dessert, le pauvre, il a jamais pu voir l'arrivée du Père Noël. Et on entendait la cloche qui retentissait dans la nuit, au loin, comme ça, c'est féerique. Hein. Et puis on voyait ce Père Noël qui approchait dans la nuit, vers la maison.
Mais c'était qui ce Père Noël?
Et bien c'était le Père Noël.
Le vrai?
Ben oui.
Non.
Le vrai Père Noël qui arrivait dans la nuit, qui annonçait son arrivée avec la cloche.
Et la cloche, là, vous étiez dans un petit village?
Non, c'était la banlieue grenobloise. C'était tout s'arrêté. On avait les yeux qui s'ouvraient, on était dans le monde des enfants.
Et quel cadeau vous avez préféré?
Cadeau préféré, honnêtement, Pascal, je ne sais plus. Ça remonte tellement loin, mais on a eu...
Qu'est-ce que vous aviez aimé recevoir? Moi, je sais ce que j'ai aimé recevoir.
Que j'ai aimé recevoir, oui, peut-être mon premier circuit électrique.
Ah, vous voyez, c'est
qui était gigantesque.
Ah, ça, c'était
gigantesque.
Circuit 24, on disait.
Exactement. Et je pense que, ça va peut-être vous faire rire, mais ça fait des années que sur Internet, dans les magasins, je cherche le circuit électrique comme on a pu avoir, et je trouve que ceux qui aujourd'hui, ils sont en bas, ils sont cachés, ça attire plus personne.
Je suis d'accord.
Et c'était non, c'était vraiment des.
Et c'était parfois nos parents qui jouaient avec nos cadeaux. On avait un circuit 24 et c'était notre père ou notre oncle qui nous piquait le cadeau.
Mais je me demande s'ils n'étaient pas plus envieux que nous de prendre nos cadeaux. Mais c'était des moments super avec mes cousins, mes cousines. Mes oncles, mes tantes, c'était magnifique et vraiment. Alors s'ils écoutent ce message, je voudrais les remercier de tous ces magnifiques moments qu'ils nous ont fait passer. Et si vous me permettez, je leur fais un gros bisou à Christiane et Jean-Pierre. Ils se reconnaîtront.
Et évidemment, depuis les années 70, dans votre famille, dans cette tablée-là, il y a peut-être des gens qui sont partis.
Ouais, c'est en plus. Ouais.
C'est pour ça que Noël, c'est aussi une rencontre avec sa mémoire et ses souvenirs.
C'est pour ça que je pense fort à eux, parce que je sais que c'est une période très difficile aujourd'hui pour eux et je pense très fort à eux.
Bah merci Thierry, on est tous pareils avec Noël, ça touche notre ADN.
Et si vous me permettez Pascal, je pense que la chanson de Noël, pour moi, que je préfère, parce que chaque parent peut se l'attribuer, et qui est magnifique, qui est la plus belle dédicace qu'un parent peut faire à son enfant, c'est celle de Johnny Hallyday, qui chantait Mon plus beau Noël. Et en plus, dans 3 jours, ça fera 3 ans qu'il nous a quittés.
Alors on va écouter quelques notes de musique de Johnny.
Merci beaucoup, Pascal.
Pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais.
Merveilleuse voix de Johnny au tout début de sa carrière.
Et maintenant, c'était plutôt la dernière qu'il a sortie pour sa fille Jade, qui s'appelle Mon plus beau Noël.
Ah, c'est pas celle-là?
Non. Ah, c'est la dernière qu'il avait sortie.
Mon plus beau Noël.
Ouais.
Mais celle-là, elle est bien.
Jade. Ça, oui, elle est un peu plus triste. L'autre est beaucoup plus gaie. Elle est beaucoup plus adressée carrément à son enfant. Et chaque parent peut l'adresser à ses enfants sans problème.
Alors, on l'écoute.
J'avais oublié à quel point on se sent petit.
Là, c'est pas la même voix, hein. Il y a 50 ans de différence. Alors, vous avez un cadeau, Thierry. Vous savez que c'est Noël avant l'heure et c'est Monsieur Cadeau. Monsieur Cadeau.
Il est gentil, Père Noël, Greg.
Mais c'est Grégory Caranoni, Monsieur Cadeau.
Ça va vous plaire, Thierry. Vous allez remporter une gamme de cosmétiques Mademoiselle Agathe. Et tenez-vous bien, c'est un peu particulier comme cosmétique parce que ce sont des cosmétiques à base de bave d'escargot bio. Oui, absolument.
Vous avez le droit de refuser.
Non, vous avez le droit de dire j'en veux pas.
Non mais alors attendez, ce qui est drôle, c'est que vu que je suis en Charente, c'est l'emblème de la Charente, les escargots, ils appellent ça ici la cagouille.
Eh bien voyez,
vous êtes où en Charente?
À
Charente
de cagouille, près d'Angoulême.
Où ça, près d'Angoulême?
La Rochefoucauld.
La Rochefoucauld, c'est près de Soyaux.
Ah non, pas de Soyaux, je sais que vous y êtes venu il n'y a pas très longtemps, à la gare d'Angoulême. Oui, parce que vous avez même fait le reproche quand vous avez demandé votre numéro de téléphone alors que vous buviez juste un café au bar de la gare.
Ah bon?
On vous suit, Pascal.
C'est pas possible.
Oui, si, c'est passé dans la Charente Libre. Vous êtes quelqu'un de célèbre, Pascal.
J'ai demandé mon numéro de téléphone.
Non, on vous a demandé, la serveuse vous a demandé le numéro de téléphone et ça vous a surpris.
Ah bon, et ça m'a surpris, mais j'ai été gentil, j'espère.
Mais bien sûr.
Ah bon?
Vous avez tout un article sur vous.
Non. Écoutez, si. Je vous remercie.
Je vous l'enverrai par la page Facebook.
Je vais donner mon numéro de téléphone à l'antenne. Merci en tout cas, Thierry.
Merci,
c'est vraiment sympa. Vraiment, c'est
merci.
Bravo. Et puis bravo pour la bave d'escargot.
Des vertus, hein. Elles sont des vertus de régénératrice, cicatrisation, purification.
Moi, je me mets de la bave d'escargot en permanence sur le visage. Laurent Tessier, vous vouliez parler, vous vouliez dire quelque chose ou pas?
J'adore la bave d'escargot.
Bon, ça c'est intéressant, mais pourquoi vous êtes là? Vous vouliez dire quelque chose?
Le teasing de ce qui va se passer à 14h.
Mais après la publicité, alors.
Je reste avec vous.
Merci Thierry, à plus
Merci
tard.
Merci beaucoup Pascal.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, de quoi va-t-on parler entre 14h et 14h30?
Eh bien, c'est une nouvelle, Pascal, qui en a surpris plus d'un.
S'il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leur station de ski ouverte, nous aurons des mesures, en effet, de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient.
Le gouvernement envisage une période d'isolement de 7 jours pour les Français qui rentreront du ski à l'étranger pendant les fêtes. Ce sont les propos tenus ce matin par le Premier ministre Jean Castex. Du coup, vous êtes quelques milliers à vous dire...
L'année prochaine, je skie au mois de juillet.
Alors, Emmanuel Macron va-t-il trop loin? Selon un sondage Elab qui date de janvier 2019, près de 8 Français sur 10 jugent le chef de l'État autoritaire et nous attendons dès maintenant au 32-10. Nous en parlerons à 14h avec Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines.
Alors c'est vrai qu'on pourrait ne pas parler que de ça, il y a des choses quand même plus graves, le Covid, vous pouvez intervenir, le vaccin, bien sûr, vous pouvez intervenir, je l'ai dit également sur cette loi, l'ouverture de l'adoption plénière aux couples paxés ou concubins, qui doit permettre de mettre fin aux discriminations relatives aux règles d'union ou à l'homoparentalité. Et faut-il ouvrir l'adoption d'enfants aux couples non mariés? Ça, c'est une bonne question. Mais je vois que vous appelez tous uniquement sur l'autorité ou l'autoritarisme du chef de l'État. Alors, nous sommes avec François, peut-être, qui habite Maintenon. Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Alors, votre sentiment, François?
Ben moi, c'est un sentiment qui perdure parce que je dois dire que le président Macron, depuis le début, je le sens comme ça. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a, je dis pas qu'il a des qualités, c'est pas bon, mais au niveau du caractère, il a ce côté ben, Jupiter. Je crois que bon, ben, Jupiter, c'est un peu causant. Hein. Et puis là, je pense qu'il se montre comme il est, c'est-à-dire bon, si ça va pas, voilà, on mettra des trucs en place. Et non, je sens pas très bien. Et de toute façon, je pense que l'empathie, c'est pas un mot qu'il connaît trop. Hein. Il est très fort dans les discours, mais celui-là doit mal le comprendre. Parce que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on peut voir, ce qu'on va peut-être voir par la suite, je pense à samedi, bon, ça recommence. Hein. À mon avis, ça va recommencer.
C'est-à-dire donc, samedi, ça recommence?
Bah, c'est-à-dire que samedi, ça recommence les manifestations.
Il y a des manifestations de prévues samedi?
Non, mais ce qu'on a vu samedi dernier, plutôt. Bon. Donc on a vu quand même des gens qui recommencent à casser, bon, tout ça, et je pense que il y a dans le peuple quelque chose qui monte comme ça, qui est très négatif. Enfin bon, moi je suis pas optimiste à ce niveau-là, hein, parce que je pense que le président Macron, c'est quelqu'un qui n'attire pas moi je dis la sympathie. Quand on voit d'autres personnes, j'ai vu un truc sur les Obama qui mangeaient avec des gens, enfin, du quotidien et tout ça. Lui Macron, il est pas là-dedans, il est dans.
Et sa cote reste très haute aujourd'hui. Je crois qu'il y a 41% d'opinion favorable.
Oui, mais ça, je me suis pas un genre de sondage, parce que je pense que quand on est dans le quotidien, à tout niveau, on s'aperçoit que les choses sont différentes. Aussi bien, on peut... Vous savez, je vais vous dire, il y a un matraquage, en tout cas, concernant un peu Castex, effectivement. Alors là, c'est l'homme avec qui on va se... Je veux dire, c'est pas un grand optimiste, hein, puis il y en a plein comme ça, donc... Vous savez, je vais vous dire, quand on se balade ou quand on va dans la vie courante, les gens sont pas comme ça non plus. Je veux dire qu'on nous fout une trouille, on est sous une pression, sous une espèce de... Moi, c'est ça que je reproche le plus, c'est que en fait, mais ça se passe pas comme ça, je regrette. Moi, il y a pas longtemps, j'étais voir ma mère, j'ai fait du trajet, bon, bah bref, il faut mettre un masque, mais là, je suis d'accord, je sais qu'il y a des moments, il faut pas non plus... bon, on est quand même pas en dictature, heureusement, quand on va à d'autres pays, quand même, faut voyager un petit peu, quand même. Hein. Donc, moi, je dis toujours, ce qui me gêne, c'est ça, c'est la peur qu'on nous met, c'est toujours ce côté, comme ça, voilà, donc... Moi, je trouve, c'est ça qui est fatigant en France, c'est de toujours se dire, de plus, en plus de ça, la transgression, ça existe aussi comme système. Hein. Donc, plus on interdit aux gens, et plus, effectivement, ils vont faire le contraire. Hein.
Bon. Ben merci, François. On va faire une parenthèse, parce que comme on va tout encore parler entre 14h et 14h30 d'Emmanuel Macron, c'est pas mal de parler de l'autre sujet et des aides sociales en France. Et on est avec Ethan, qui habite Toulouse, qui est soudeur. Et c'est un sujet qui nous intéressait. Pourquoi ? Bonjour, Ethan.
Oui, bonjour.
On est les champions, selon les derniers chiffres de l'OCDE. Notre pays a consacré l'an dernier 32% de son produit intérieur brut à ses dépenses sociales. La France redistribue, en clair. C'est une bonne chose, d'ailleurs, parce que la France protège.
Oui,
et on est devant la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, la Norvège. Donc c'est aussi un des paradoxes français. Nous sommes un pays de cocagne et les gens ont le sentiment de vivre en enfer.
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand même, il y a eu des luttes sociales justement pour avoir ce genre d'aide pour les personnes qui ont des difficultés. Alors, effectivement, on va toujours stigmatiser. Il y en a qui le font pour pas aller travailler. Il y en a, c'est des fainéants, etc. Mais ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que beaucoup de ces gens préféreraient plutôt aller travailler. Hein, plutôt que de toucher enfin 800 à peu près 800 euros par mois. Mais moi je vois le problème dans l'autre sens, c'est que
si on revalorisait déjà au niveau des salaires, d'avoir des salaires minimums décents à 1 500 euros, enfin quelque chose comme ça, je pense que les gens préféraient aller se lever et aller travailler plutôt que de toucher 800 euros. Mais en même temps, parallèlement à ça, moi qui pensais que ce pays, c'était le pays de la liberté, égalité, fraternité, je vois qu'en fait, on se couche en fait derrière les plus puissants, les plus riches, parce qu'on se dit « Ah bah c'est un combat, on peut rien faire contre eux ». Mais par contre, ceux qui sont en dessous de nous, ceux qui n'ont rien, les plus faibles, hein, tout simplement, comme à l'école ou à l'armée, ah là par contre, on y va. On y va. Et moi,
bah oui, mais
ce n'est
pas totalement vrai, puisque le système français, justement, il est très protecteur pour les petits. Il redistribue comme aucun pays ne redistribue au monde.
Oui, oui, non, mais moi, ce que je vous parle, c'est de l'opinion, justement. C'est que systématiquement, dès qu'il y a des élections ou autres, à chaque fois, on va aller dire « Oui, mais c'est eux. Oui, mais les chômeurs. Oui, mais... » Heureusement que nous avons des protections pour les gens qui perdent leur emploi quand les entreprises délocalisent pour les actionnaires. Ne l'oublions pas quand même. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est qu'on remette les choses dans leur contexte et qu'effectivement, qu'on puisse aider des gens par rapport justement à la fraternité. C'est très bien qu'on continue comme ça dans les pays riches et dont ceux justement qui n'ont pas beaucoup, qui ne peuvent pas justement des fois aller travailler.
Donc vous êtes pour cette redistribution et ça vous va?
Oui, mais et avec toujours le mais. Parce que comme partout, il y en a qui profitent, il y en a qui trichent. Effectivement, c'est une minorité. Mais c'est pareil partout. Par contre, c'est toujours à la même hauteur, on va dire, de ce qu'ils peuvent grappiller. Quand on est en bas, les gens grappillent un petit peu. Par contre, plus on monte dans les échelons, plus les valeurs montent. Et si à ce moment-là, on stigmatise effectivement les aides sociales, c'est très bien qu'on les reverse. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on nous montre un petit peu l'argent qui est dépensé bêtement, soit par les politiques ou autres, et en même temps, l'évasion fiscale. Et là, je pense que le combat serait totalement inverse. Et nous sommes dans un pays extrêmement riche. Et moi, ce que je trouve qui me fait très mal, et j'aimerais bien que les gens, à un moment donné, se regardent un peu dans la glace, c'est quand on voit des enfants qui dorment dans la rue parce que leurs parents n'ont pas de logement, n'ont même pas d'aide. Ce sont même des gens qui n'ont même aucune aide. Et à côté de ça, on rentre chez soi, on ferme la porte et on oublie. Qu'on ait les aides sociales, c'est très bien. Qu'on soit champion d'Europe, à la rigueur, je vais même vous dire, c'en est même malheureux. Ça veut dire que dans d'autres pays, ils ont des conditions qui sont plus difficiles. Donc, profitons de tout ça, arrêtons de pleurnicher et de faire en sorte qu'on nous enlève tous ces droits, toutes ces protections, parce que c'est ce qu'on est en train de perdre, hein. Nous perdons tout ça. Et j'aimerais bien que justement les gens, à nouveau, comme le disent, liberté, égalité, fraternité, qu'on se regarde, qu'on s'entraide et qu'on fasse comme Jésus faisait à l'époque, distribuons les pains pour ceux qui n'ont pas. Voilà.
Merci de ce message effectivement fraternel, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est sur 1000 euros dépensés en France de dépenses publiques, sur 1000 euros, eh bien il y en a 575 qui sont pour la protection sociale. Le premier poste, c'est la retraite, c'est-à-dire sur 1000 euros dépensés en France, 268 euros, c'est la retraite. 191 euros, c'est l'assurance maladie. Les allocations familiales, c'est 42 euros, c'est moins. Le chômage, ce n'est par exemple que 35 euros. Le gros budget de la dépense sociale en France, les deux gros budgets, c'est la retraite, l'assurance maladie. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Cédric veut également parler des aides sociales et je rappelle que la France devance la Finlande, le Danemark, l'Allemagne. C'est-à-dire que l'an dernier, notre pays a consacré 32% de son produit intérieur brut aux dépenses sociales.
Oui,
Cédric.
Bonjour Pascal. Bonjour.
La Finlande par exemple c'est que 29%, le Danemark c'est 29%, l'Allemagne c'est 25%. Ça qui est quand même important, c'est 7% de moins.
C'est énorme. Et comme je dis toujours, en fait, le mal franco-français, c'est de voir toujours, on est tout le temps en train de regarder et de dire, nous, les Français, on est les moins bons, on est nuls. Mais la preuve est que finalement, on aide beaucoup tout le monde. On aide beaucoup les plus pauvres, les gens qui viennent, les nouveaux entrants en France, les désœuvrés. Donc, on aide énormément les retraités. Le problème, c'est que les gens, les personnes en France, globalement, souvent, ils ne regardent pas ce qu'il y a ailleurs. On est tout le temps en train de dire en France, c'est pas bien. Mais si on regarde ailleurs, je vais vous donner un exemple, Pascal. En Roumanie, un test PCR, c'est 70 euros. Quand le salaire moyen est de 450 euros. En Italie, c'est 65 euros.
C'est-à-dire qu'il faut le payer à chaque fois ? C'est ce que oui. vous voulez dire ?
Oui.
Alors que nous, c'est remboursé.
Et en France, mais oui, bien sûr.
Bien sûr.
Oui. Ben, vous avez déjà été faire les tests ?
Non. Pour tout vous dire, je n'ai pas fait de test encore.
Donc voilà, mais c'est juste un simple exemple. C'est juste un simple exemple. Vous croyez beaucoup qu'il y a beaucoup de pays, quand les étrangers viennent, qu'on les aide comme ça, quand ils arrivent, qu'on les loge parfois dans l'hôtel. Bon, je ne parle pas des migrants. Mmh. Mais vous croyez qu'il y a beaucoup de pays dans le monde que ça se passe comme ça, que les gens ont tous...
Non, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord, je partage votre avis. C'est-à-dire qu'effectivement, on est un pays qui... C'est d'ailleurs assez incroyable, c'est un pays où on paye sans doute le plus d'impôts, on est sans doute le plus taxé, on redistribue le plus, et malgré cela, effectivement, certains soulignent qu'on n'en fait pas assez. Alors que manifestement, tu es très protégé, disons-le, en France. Par exemple, dans cette crise, vaut mieux être français qu'un Italien ou un Anglais dans cette crise, même quand tu es commerçant, même quand tu es salarié, parce que tu es très protégé. C'est quoi qu'il en coûte.
Bien sûr. Après, on verra comment on va payer tout ça à la fin. Je ne sais pas, ça sera certainement nos enfants, nos petits-enfants, comment ils vont payer. Là, ça, c'est une autre question qu'il faudra voir dans quelques années. Mais en attendant, je pense qu'on en fait beaucoup. Si on était concerné et qu'effectivement, on n'était pas assez payé, certainement, vous comme moi, on dirait on n'en a pas assez. C'est humain, en fait. Mais par rapport aux autres pays, on est vraiment bien aidé.
Écoutez, merci de ces paroles positives, bien évidemment. Mais par exemple, vous, sur le fond, vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose, par exemple, que ce soit le chômage. J'ai dit tout à l'heure, les deux premiers postes, c'est la retraite et le chômage. Alors la retraite, c'est vrai que c'est parce qu'on a beaucoup payé, hein, d'une certaine manière, qu'on a aussi une bonne retraite. On a cotisé, comme on dit, pendant des années.
Bien sûr. Après.
Simplement, pour les gens de ma génération, on peut s'interroger si on aura une retraite. Hein.
Et la mienne alors.
Là, on a le même âge, donc comme ça.
Non,
on n'a pas le même âge d'ailleurs. Vous avez 43 ans. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil. Les baby boomers ont une formidable retraite. Ils ont eu toutes les chances, les baby boomers. Mais nous qui allons passer derrière, ça va être plus compliqué.
Ça va être plus compliqué. Il faudra peut-être se la faire un petit peu, la retraite. Mais on dit ça quand on veut dire on est dans la classe moyenne. Les gens qui ne sont pas dans la classe moyenne, ils se disent pas je vais me faire la retraite, hein. C'est pour ça que dans les années qui vont venir, je pense que ça va être un peu plus difficile, mais on attend toujours l'état providence, hein, comme on dit, hein.
Merci Cédric, c'était très intéressant. Nous allons être dans un instant revenir à ce thème sur l'autoritarisme, pourquoi pas, du président de la République. On sera avec Marie Lebec, elle nous donnera son avis. Elle est députée de La République En Marche des Yvelines. Je pense qu'elle ne va pas la défendre, j'imagine, Emmanuel Macron, et nous donner des arguments. C'est pour ça que ça va être intéressant. Emmanuel Macron est-il trop autoritaire? Voici une de nos questions pour l'heure du déjeuner. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
La campagne de vaccination au Royaume-Uni commencera dès la semaine prochaine, normalement. En tout cas, le pays est le premier à valider le vaccin Pfizer-BioNTech. 40 millions de doses devraient être disponibles rapidement. Le pays va vacciner avec des ordres de priorité, en commençant par les maisons de retraite. Le gouvernement ne veut pas que les Français aillent skier à l'étranger pendant les vacances. Jean Castex, le Premier ministre, affirme que l'hypothèse envisagée est de multiplier les contrôles aux frontières avec la Suisse ou avec l'Espagne, par exemple, et d'imposer ensuite un isolement de 7 jours à ceux qui reviennent du ski. Beaucoup doutent de la mesure, sachant qu'il est difficile lors d'un contrôle de savoir ce que vous avez fait dans le pays dont vous revenez. Le procès des attentats de janvier 2015 a repris. Le principal accusé, Ali Reza Polat, après avoir été testé au positif au coronavirus, est maintenant apte à suivre les audiences, selon les médecins. Bon sang ne saurait mentir. Mick Schumacher suit les traces de son père et a signé pour commencer l'année prochaine en Formule 1 au sein de l'écurie Haas. Cette écurie que va précisément quitter Romain Grosjean à l'issue du dernier Grand Prix prix de la saison. Le pilote français a pu sortir de l'hôpital ce matin à Bahreïn, où il était soigné pour ses brûlures au dos et aux mains après l'accident dont il a été victime le week-end dernier. Le PSG, lui, est à Manchester United ce soir pour la suite des phases de poule de la Ligue des Champions. Match très important, tout autre résultat qu'une victoire rendrait compliqué l'espoir d'une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Emmanuel Macron est-il trop autoritaire ? C'est une question que nous, à laquelle nous tentons de répondre depuis 13h, Laurent Tessier.
C'est une nouvelle qui en a surpris plus d'un. Ces propos d'Emmanuel Macron ne manquent pas de vous faire réagir depuis le début de l'émission.
S'il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leur station de ski ouverte, nous aurons des mesures en effet de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient.
Le Premier ministre Jean Castex a prévenu ce matin chez nos confrères de BFM, si vous comptez tout de même aller skier pendant les fêtes par exemple en Suisse, eh bien lorsque vous rentrerez en France...
vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. La conclusion à tirer, oui, monsieur, c'est que je ne vais pas en Suisse.
Quand on reverrai-je, pays merveilleux.
Et du coup, forcément, vous êtes quelques milliers à vous dire...
L'année prochaine, je skie au mois de juillet.
Et pourtant, vous n'êtes pas très nombreux à vouloir aller skier.
Le ski à Noël, c'est même pas 8% des Français. Avec les remontées fermées, il y en a encore moins qui avaient prévu d'y aller. Alors si en plus on cible que ceux qui ont les moyens et l'envie d'aller à l'étranger pour faire du ski, oh là, on doit être sur une histoire de, je sais pas, une dizaine de personnes, une centaine, allez, un millier maximum, sur 67 millions.
Alors Emmanuel Macron va-t-il trop loin ? Selon un sondage Elab qui date de janvier 2019, près de 8 Français sur 10 jugent le chef de l'État autoritaire, mais pas que, exemple avec les mesures du reconfinement.
Les décisions prises par l'exécutif ne sont pas seulement critiquées en France. Le magazine allemand Die Zeit n'y va pas avec le dos de la cuillère cette semaine. L'hebdo de référence Outre-Rhin juge le dispositif autoritaire et parle même d'absurdistan.
Alors nous vous reposons la question, Emmanuel Macron est-il autoritaire ? Qu'en pense Jean-Luc Mélenchon, interrogé il y a quelques jours chez nos confrères de France 3 sur la loi de sécurité globale ?
En réalité, nous sommes passés dans un modèle de régime autoritaire de surveillance généralisée. Et vous allez voir, parce que cette loi est la première d'une série.
Que disait François Ruffin, le député de la France Insoumise, au mois de janvier sur RTL ?
Je dis qu'en effet, on est dans un temps de resserrement autoritaire.
Eh bien avec nous en studio, Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines.
Bonjour Marie Lebec. Bonjour. Et le public ne vous connaît peut-être pas encore toujours et tout le temps, mais vous êtes la Benjamine peut-être de l'Assemblée nationale ?
Non, presque.
Quasiment, puisque vous êtes une très jeune députée, vous avez été élue à 27 ans. Et vous avez aujourd'hui 29 ans, je me permets de dire votre âge,
non,
parce que des députés qui n'ont pas 30 ans ou qui n'ont pas eu 30 ans dans la République, c'est assez rare. C'est vrai qu'on se dit depuis 13 heures, il y a déjà assez de problèmes dans la société française. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron est allé se chercher une polémique qui le montre sous un visage effectivement un peu autoritaire, alors que ça concerne mais quelques dizaines, quelques centaines, peut-être 5000 personnes qui iraient skier à Noël à l'étranger, comme le disait Cyprien Sini. Pourquoi cette polémique ?
Je ne crois pas que ce soit une polémique, je crois que c'est une décision de bon sens. On est en pleine phase de déconfinement progressif, on demande à l'ensemble des acteurs de faire preuve de responsabilité, notamment aux acteurs du ski français qui ont en plus des saisons qui sont assez courtes, et je pense que le message qu'il faut retenir, c'est pas tant c'est interdit d'aller skier en Suisse, mais surtout n'allez pas skier en Suisse parce que on est collectivement responsable de la lutte contre l'épidémie. C'est ce qu'il a dit à l'occasion de son allocution sur le déconfinement, et je crois que c'est important, même si ça concerne quelques dizaines de Français, de bien rappeler que c'est parce qu'on fait tous cet effort qu'on sera en capacité de continuer à avoir une courbe descendante sur la gestion de
l'épidémie. Mais c'est entendu, mais si, quand je dis parfois que les hommes politiques sont déconnectés de la réalité, personne ne pense comme vous depuis 13 heures. Tous les gens soulignent autoritarisme. Pourquoi ? Parce qu'on est à 8000 contaminations jour. On va être sans doute à moins de 5000 dans les 10 jours. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre la décision de rouvrir peut-être les restaurants parce que 5000, c'était la jauge proposée par Emmanuel Macron. Et les gens voient dans cette mesure précisément quelque chose d'autoritaire. Alors c'est à eux qu'on va s'adresser, bien sûr. Et Gilles, par exemple, va pouvoir dialoguer avec vous, puisque c'est le but de cette émission, de mettre le dialogue en place. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Je vous laisse avec Marie Lebec.
Alors, est-ce que vous me permettez en préambule de prendre le Larousse en tant qu'arbitre ?
Pour
moi, c'est un arbitre impact. Alors, je lis. Personne qui est à la tête d'un État détient tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire. Personne autoritaire qui impose son point de vue aux autres. Je pense qu'on est depuis 6 mois, on est une dictature. Monsieur Macron décide tout seul. Alors moi, j'ai une explication. Je pense que c'est quelqu'un qui a jamais connu l'échec, qui a une très haute idée de son génie et qui n'a pas de sens politique. Alors que madame le défende, c'est normal. Elle est dans son... Mais si j'étais, si vous voulez, madame la députée, moi, ce que j'attends de vous, c'est pas de défendre le président, c'est de défendre les Français. Parce que c'est, il me semble, votre rôle. Et si je devais rêver d'un truc à l'Assemblée, c'est que tous les députés tournent le dos en disant, puisque nous ne servons à rien, nous ne faisons plus rien. Démerdez-vous avec le pouvoir. Et au moins, ça serait la preuve que vous vous souciez de nos intérêts plutôt que de l'intérêt du président.
Madame Lebec est venue gentiment à l'heure du déjeuner pour dialoguer avec les auditeurs. Donc, on va être aimable et courtois avec elle. Mais les questions sont posées et elle vous répond.
Il n'y a rien de méchant.
Non, non, mais merci Gilles pour vos questions. Moi, je ne partage pas à la lecture du Figaro de la définition de autoritarisme du tout ce que vous avez pu nous dire. Puisque les institutions.
Pardon,
les institutions. Attendez, laissez-moi aller au bout de la réponse. Les institutions. Continue de fonctionner depuis le début de la crise. Et quel est le rôle du Parlement ? Le rôle du Parlement, c'est de voter le budget, de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. La preuve en est, c'est qu'il y a une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire qui a rendu aujourd'hui ses conclusions et qui a permis de soulever un certain nombre de points positifs, négatifs sur la gestion de cette crise. C'est bien la preuve que l'action de contrôle et donc que le président de la République ne gouverne pas seul, contrairement à ce que vous m'avez dit sur la définition du Larousse.
Si vous me permettez une interruption, on parle pour le moment, on est sous conseil spécial, c'est en gros le président décide tout seul avec 3-4 personnes dans son coin. Vous n'avez aucun pouvoir d'intervention, vous n'êtes pas consulté. En gros, pour le moment, vous faites de la figuration, si vous me permettez.
Alors, on va marquer une pause parce qu'il est déjà 14h08, mais le débat s'engage et c'est intéressant. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Discussion vive. Marie Lebec, jeune députée qui est venue gentiment au micro d'RTL. Gilles, donc.
Je suis pas méchant, Pascal.
Soyons aimables et courtois avec elle.
Je suis courtois, c'est la Gilles, définition du Larousse.
Elle vous répond.
La définition du Larousse.
Non, mais Gilles, pardon. L'autre point. Que vous avez soulevé sur le fait de dire finalement on ne décide rien, on ne protège pas ou on protège mal. Moi je voudrais dire quand même que il n'y a pas que des décisions contraignantes comme celles qui ont été annoncées ce matin sur l'interdiction d'aller skier en Suisse. Il y a aussi un certain nombre de décisions qui visent à protéger davantage les Français. Et quand vous les protégez par exemple en faisant des mesures visant à faire de l'activité partielle de longue durée, à aider les familles les plus fragiles, aider les étudiants les plus fragiles, c'est grâce au Parlement que ces mesures elles sont mises en œuvre. Donc vous voyez bien que le partage des pouvoirs, il est là et que
non, mais c'est
l'ensemble
vrai que le Parlement n'est pas très présent dans cette séquence. On a le sentiment quand même qu'il est un peu mis à l'écart, disons-le, et même l'opinion publique. C'est vrai qu'on a le sentiment depuis le début de la crise que le pouvoir est assez, directif, et que c'est Emmanuel Macron, Jean Castex, le Conseil scientifique, mais que c'est très restreint. C'est le sentiment, en tout cas, que les Français ont, sans
mais
doute.
Mais pardon, mais le plan de relance, quand vous le votez, 100 milliards d'euros, les différents projets de loi de finances rectificatifs qui vous permettent de débloquer les aides pour les entreprises, les aides pour l'activité partielle de longue durée, qui est-ce qui les vote ? C'est pas le gouvernement qui peut prendre ces décisions-là tout seul.
Mais c'est le
Parlement.
C'est le gouvernement qui le propose, et puis après, il y a une chambre
de
gouvernement. Mais c'est la 5e République. Donc je suis plus... On peut en parler pendant des heures, c'est aussi le fonctionnement de la 5e République. Merci Gilles. Autre peut-être témoignage, en tout cas c'est Erwan. Bonjour Erwan, qui a 50 ans et qui habite dans le Finistère et qui va pouvoir échanger avec Marie Lebec.
Bonjour Pascal.
Ah ben vous êtes réveillé Erwan.
Oui, je suis réveillé, ça va.
Bon. Non mais ça changeait derrière Gilles qui était tonitruant, c'est pour ça.
Oui, mais il ne faut pas être tonitruant. C'est parce que... Alors, la première chose que je voulais dire, d'abord, c'est que je pense que l'exercice du pouvoir est un exercice extrêmement difficile. Je pense que les gens ne se rendent pas bien compte, en fait, de ce que ça représente. Et je pense que quand on est à la tête d'un État, ça n'excuse pas certains comportements, hein, mais quand on est à la tête d'un État, on est désespérément seul. Il ne faut pas oublier ça. Parce que c'est la personne seule qui, elle, se met face à tout le monde pour donner
ses directives et ses décisions. Donc c'est extrêmement compliqué, même si on a un tas de conseillers derrière soi. Je pense que c'est compliqué à gérer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point dans notre République, là, où on patauge dans notre histoire, en fait. Je parle souvent de consanguinité intellectuelle. Alors, le mot est un peu fort, peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des énarques et des étudiants qui sortent de Sciences Po qui ont été, en fait, éduqués par des personnes qui sont diplômées de ces mêmes écoles. Donc, je pense que les idées tournent un petit peu en rond. Je pense aussi fortement que le savoir n'a jamais fait la capacité d'action. Dans la capacité d'action, je parle de la capacité à décider et à mettre en application.
Notre question, c'est Emmanuel Macron est-il trop autoritaire, hein ?
Alors, je pense que Emmanuel Macron est trop autoritaire peut-être dans ses actes, mais je pense qu'il est mort de trouille surtout. Je pense qu'il est incapable de prendre du recul et de gérer la situation. Et d'où ces réactions trop autoritaires. Ah,
pardon, voilà. Erwan, si je peux rebondir sur vos propos, sur la solitude du pouvoir. C'est un... Je pense que c'est... Quoi que vous fassiez, que vous soyez à la tête d'un État ou à la tête d'une entreprise, il y a toujours une part de solitude dans cet exercice. Mais à la fois, le chef de l'État est extrêmement conseillé, appuyé, il prend son conseil auprès d'un certain nombre d'acteurs. Mais surtout, je crois que ce qu'il faut se rappeler, c'est dans la gestion de cette crise, même si... Bien sûr, le chef de l'État donne les grandes lignes directrices et c'est le sens finalement de cette gestion de crise. C'est aussi qu'il y a un engagement collectif. Nous, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut. Si les Français ne respectent pas les gestes barrières, s'ils ne respectent pas les protocoles de confinement, aussi difficile que ce soit pour tout un chacun, je crois qu'on ne peut pas lutter contre cette pandémie. Donc, bien sûr, il y a une part de solitude dans le pouvoir. Je vous rejoins dans l'analyse que vous faisiez. Mais je crois, malgré tout, que vraiment c'est une bataille collective pour mettre fin à l'épidémie et finalement on a comme remporté une première manche maintenant puisque le deuxième confinement a permis de casser très nettement la dynamique et de nous permettre de déconfiner progressivement jusqu'au fête de Noël.
Ben merci Erwan, merci beaucoup. C'est vrai que cet autoritarisme qui est parfois pointé du doigt, beaucoup d'auditeurs depuis 13 heures parlaient par exemple de l'attestation. Et deux ou trois fois, le mot, c'est intéressant hein, de le dire comme ça, « Ausweis » est revenu dans leur voix. C'est ce que disent les auditeurs. Bon, des attestations, il n'y en a nulle part. Il n'y a que nous qui faisons ça.
Je crois qu'il ne faut pas... il ne faut pas laisser, et c'est un petit peu ce que Gilles aussi disait dans son deuxième point, laisser entendre que la France ne serait plus en démocratie. Je crois que c'est un message qui est extrêmement dangereux. Il y a des décisions qui sont prises, qui sont des décisions fortes. Il y a l'application Tous Anti-Covid qui permet de laisser. Il y a des attestations. Privations de liberté, c'est lutter contre l'épidémie. Plus on lutte vite, plus on en sort vite.
Marie Lebec, moi j'entends ce que vous dites et évidemment qu'on est en démocratie. Je vous dis depuis 13 heures, des auditeurs ont dit le mot Ausweis et ils ont dit il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui faisons des attestations quasiment en Europe. Donc ça les choque parce qu'ils ont le sentiment, entre guillemets, d'être fliqués. Et c'est ça qu'ils expriment à travers cette émission.
Non, moi je ne crois pas qu'il y ait cette logique de flicage. La preuve en est, c'est qu'à partir du moment où on peut assouplir, on le fait bien volontiers. Il y a un vrai enjeu de dire... Il faut que tout le monde fasse un effort de restreindre
ses interactions. Non, mais ça, j'entends le discours collectif. Mais vous avez raison. C'est un bon message, effectivement, de solidarité. Je l'ai dit tout à l'heure avec un auditeur qui ne portait pas son masque. Je lui ai dit, vous faites n'importe quoi. Vous avez raison. La pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Pierre et je rappelle que nous sommes avec Marie Lebec, qui est une jeune députée de La République En Marche. Vous êtes vice-présidente hein, également. Donc, on voit c'est la génération montante quand même. Et avec une... Alors, place aux jeunes et place aux femmes.
Place aux femmes, c'est sûr. Place aux jeunes, non, je pense qu'il faut de l'équilibre en tout.
Bah, place aux jeunes, en tout cas, vous avez une jolie place.
En tout cas, il y a de la place pour les jeunes, oui.
Voilà, vice-présidente à 29 ans, c'est une belle réussite. Pierre est là. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Pascal.
Et merci d'être
Bonjour, madame la députée.
Bonjour, Pierre.
Alors, moi, je voulais intervenir. Déjà, sur le fond, je voulais dire que j'étais d'accord avec les deux auditeurs précédents. Sur le fond. Mais, parce qu'il y a un mais. Le problème, en fait, il vient de la France d'une manière générale. C'est-à-dire, le peuple français est un peuple indiscipliné. Tout simplement. Donc, le président est obligé de prendre des décisions que je trouve moi-même autoritaires, parce que le Français n'est pas capable de prendre les bonnes décisions lui-même.
Pardon, moi je savais pas si vous avez terminé, Pierre, je rebondis sur ce que vous disiez. Je sais pas si j'ai envie de qualifier d'une manière le peuple français, mais ce qui est sûr, c'est que vraiment l'esprit qu'on essaye d'insuffler, c'est la bataille collective. Et je crois peut-être qu'effectivement, en tout cas, il y a une part des Français, on peut peut-être pas mettre tout le monde dans le même panier, mais qui est dans une dynamique aussi de recherche de leadership, d'un chef, et qu'ils retrouvent aussi dans une crise, ils apprécient en tout cas d'avoir quelqu'un qui dirige le pays en donnant des directives claires. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de cette crise.
Ben, pardonnez-moi, mais c'est pas du tout ce que fait Emmanuel Macron.
Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que...
Donne-moi un exemple.
Non, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que tous les leaders de tous les grands pays sont davantage plébiscités en ce moment qu'Emmanuel Macron. Même si sa cote est haute, je crois qu'il est à 41% d'opinion favorable, c'est moins qu'en Angleterre, c'est moins qu'en Allemagne. Alors, vous me direz... c'est mieux qu'aux États-Unis puisque Trump est peut-être a peut-être été battu sur la crise du Covid.
Oui, mais alors là, je comptais aussi remettre parce que il y a quelque chose que je trouve absolument hallucinant avec Donald Trump. Et pourtant, je suis pas quelqu'un un pro-Trump. Mais Trump, si vous faites au prorata de la population française et au prorata de la population américaine, on a exactement le même nombre de morts. Au prorata.
Non, mais c'est pas tout à fait faux d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas tout à fait faux. Alors il y a quand même, je veux dire, c'est ça qui est aussi dans cette crise intéressant de voir, c'est quelles que soient les politiques qui ont été mises en place, tu arrives toujours à, entre le nombre d'habitants du pays et le nombre de morts, à des nombres et des moyennes qui sont assez proches.
Eh bien non, pas toujours.
Globalement, hormis le Brésil, le Pérou et quelques pays de ce type.
Oui, mais il y a des pays qui font nettement mieux et c'est là où je voulais
en venir. Bien sûr, l'Allemagne fait beaucoup mieux, par exemple.
Oui, mais je ne pensais pas à l'Allemagne, je pensais plus aux pays asiatiques du type Corée du Sud.
Attends, juste pardon, mais c'est pas. Il y a eu des stratégies qui sont différentes aussi qui ont été mises en place, et notamment, mais ce n'est pas la seule, mais on s'est aussi inspiré de ces pays-là. Quand on développe tous anti-Covid, c'est aussi regarder comment ça a été fait pour renforcer le traçage, le tracing. Vous savez, ça reste quand même compliqué quand vous êtes notamment dans des grandes métropoles, pour mieux confiner, pour mieux isoler aussi. J'entends ce que vous dites, mais on s'inspire aussi de ce qui est fait à l'étranger.
Le problème, Madame la députée, c'est que vous faites du politiquement correct, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que le premier confinement, et la première crise, elle est liée aux erreurs du gouvernement, aux décisions qui n'ont pas été prises assez vite. En revanche, le deuxième confinement, il n'est pas la faute du gouvernement, il est la faute des Français qui n'ont pas respecté les règles, qui n'ont pas respecté un minimum de discipline. C'est-à-dire que, comme la personne qu'on a eue tout à l'heure, le fameux professeur de droit du Puy-de-Dôme, qui pour moi est une personne irresponsable et égoïste, une partie de la population française, certes pas la majorité, mais une partie de la population française ne respecte pas les règles basiques qui consistent à faire attention aux autres.
Oui, mais c'est le sens aussi de ce message qu'on a essayé de véhiculer. Moi, je ne sais pas si je fais du politiquement correct, mais le premier confinement, à quoi il est lié, Pierre ? Le premier confinement, il est lié à aussi une méconnaissance par l'ensemble des pays, par l'ensemble des scientifiques, des effets de ce virus, des conséquences, de sa transmission, etc. Et c'est un apprentissage, et je crois qu'il faut accepter que le premier confinement, il y a des choses qui ont réussi, il y a des choses qui ont moins bien marché. Le deuxième confinement, et c'est vraiment le relais, c'est, on l'a dit pendant l'été, le Premier ministre Jean Castex l'a répété, il ne faut pas relâcher ses efforts. Il y a une reprise de l'épidémie qui a été très violente en Europe, et je crois que le deuxième confinement, c'est aussi le résultat de cette épidémie, la reprise violente.
Eh bien, merci beaucoup, Marie Lebec, d'avoir défendu le président de la République avec vigilance et avec également énergie. Dans une seconde, ce sera avec Laurent Tessier le verdict de notre émission. Et puis, Flavie Flamand va arriver à 14h30. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.